France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il ne lui arrivait que des choses fausses, mais pas la maladie. Un outil merveilleux pour cet homme qui avait prévu sa mort. Quelques titres. La mort propagande, les chiens, voyage avec deux enfants, mes parents, fou de Vincent, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, le protocole compassionnel, et aussi Suzanne et Louise, roman photo. Le 4 octobre 2004, Vincent Josse proposait dans Surpris par la nuit un portrait d'Hervé Guibert. Hervé Guibert qui avait dit un jour « Il faudrait qu'il m'arrive un grand malheur pour que je connaisse le succès ». Avec les témoignages de Patrice Chéreau, Philippe Castelbon, Yvonne Babi, Jean-Marc Roberts, Christian Guibert, Agathe Gaillard, Mathieu Lindon. Texte lu par Guillaume Depardieu.
Surpris par la nuit.
Hervé Guibert, un romancier barbare et délicat. Hervé Guibert est mort célèbre en 1991. Il venait d'avoir 36 ans. Un an et demi plus tôt, un vendredi soir à la télévision, son visage angélique, creusé par sa lutte contre le sida, avait ému les téléspectateurs. Son roman « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » fut un succès. En 1977, une vingtaine de livres plus tôt, Guibert écrit dans « La mort propagande » cette phrase prophétique « Je veux une mort lente, une mort qui me laisse le temps de me voir mourir ». La mort mêlée à l'amour traverse ses romans, ses nouvelles, ses récits, ses photos, peut-être même ses critiques de photos dans le monde. Guibert met en scène son personnage le plus familier, lui-même, son jeu, J.E., et tous ces personnages, de T, Thierry à Musil, son voisin Michel Foucault. Avec un œil photographique, il fait de nous des observateurs savants de son intime. Il livre, sans censure ni morale, son âme, son corps. Il dit tout, à moins qu'il ne fasse mine de tout dire. Guibert, vu par ses personnages, et aussi par un jeune lecteur de 34 ans qu'il n'a pas eu le temps de connaître, et qui, dans un roman d'Hervé Guibert, se serait peut-être appelé P. Philippe Castelbon ?
Oui, lui-même.
C'est France Culture.
Merci.
Merci.
La porte ou pas ?
La porte est ouverte, oui. A tout de suite. On arrive chez vous, là, Philippe, et il me semble que j'aperçois une photo que vous connaissez.
Oui.
Une grande photo d'une bibliothèque,
oui,
d'un
oui.
certain Hervé Guibert.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait là, cette photo ?
C'est Yvonne Babi qui me l'a offerte.
Donc, l'ancienne patronne de Guibert au Monde.
Celle qu'il a lancée, qui lui a fait écrire sur la photo et sur le cinéma. Et comme j'ai eu la chance de la rencontrer, de l'interviewer, et qu'on a parlé de Guibert, elle m'a fait ce cadeau-là. Et j'ai mis là. Et je me suis rendu compte, en fait, hier... qu'il y avait pas mal de choses de lui partout ici, le tableau qui est là. Alors, et le petit tableau, qui est une petite peinture qui est d'un anonyme, qui est une inconnue, et en fait, était chez lui et elle s'appelle Le Désespoir. Et elle a été vendue un jour, il y a eu une vente aux enchères chez Agathe Gaillard, et je l'ai achetée. Et là, sur le mur, il y a une, sur l'autre mur, il y a une page d'un manuscrit que j'ai acheté aussi. Là, voilà, un texte inédit qui s'appelle Les Rivaux. La vente était organisée par Christine Guibert, sa femme. Et dans un carnet, elle avait commencé à écrire ce texte-là et elle l'a déchiré. Puis elle avait envie de, enfin, de la vendre comme ça, de l'offrir un petit peu. Parce que... Et donc ça s'appelle Les Rivaux. La première chose que m'a enseigné mon père, c'est la peur de se brûler, la peur d'attraper des microbes, ne pas mettre ses doigts dans son derrière, la peur de mourir. De cette peur, mon père a fini par me faire peur. Un de ses premiers récits a été la guerre, celle qui était responsable de leur privation et de ma chétivité corollaire. Une des premières images était une image sans doute, une image exagérée, de quoi m'habituer au pire. Un four crématoire, mais on y entassait les gens vivants par cohorte, les femmes, les mères avec leurs enfants. Leurs pieds étaient nus, d'abord le sol en acier était froid, virgule, et ça continue.
Donc on peut imaginer la suite.
On peut imaginer la suite.
Alors c'est fou parce qu'il y a tout un patrimoine Guibert ici.
Je sais pas, mais c'est pas un musée. J'ai pas fait un musée. Enfin, j'ai pas fait un musée. C'est j'ai dû le découvrir forcément quand j'avais 17-18 ans. Je pense que c'est à l'époque de Foot Vincent, sûrement. Et j'ai acheté ce livre, j'ai lu les autres, et puis après, il a été médiatisé avec l'histoire du sida, le protocole compassionnel, l'ami qui m'a pas sauvé la vie, etc. Et au fur et à mesure, j'ai acheté des choses parce que ça me plaisait, parce qu'il compte, parce qu'il est important. Mais c'est pas pour faire un musée, c'est juste parce que ça m'intéresse, il me plaît, son univers, sa vie, ses livres surtout, ses photos en plus. Et donc, il est comme ça, c'est quelqu'un qui accompagne, quoi. C'est un auteur qui m'accompagne, tout simplement, mais... Et quand on est en fin d'adolescence à 17 ans, qu'on sort de la campagne et qu'on se retrouve à Bordeaux, et qu'il y a un type qui dit c'est possible d'aimer qui on veut, comme on veut, plein de fois, à plusieurs, quel que soit le sexe et tout, et qui vous dit c'est possible. Voilà, c'est énorme. Et ça, ça construit, quoi.
J'ai raconté très souvent comment j'ai rencontré Hervé.
Mais Yvonne Babi.
Hervé avait envoyé au monde une lettre. Une lettre ouverte, enfin une sorte d'article qu'on envoyait l'été sur le gueuloir à Avignon. Et donc il présentait un texte sur ses tantes, Suzanne et Louise, voilà. Et il a envoyé son texte au monde. C'était pendant les vacances, et moi j'étais en vacances, et je lisais pas tellement le monde. Et puis à la fin, j'ai lu tout, je suis revenue dans mon service, et j'ai dit « Qui est Hervé Guibert ?» Donc tout le monde était assez offensé, parce qu'ils avaient tous travaillé très bien. Et j'arrive, je dis « Qui est cet Hervé Guibert ?» Comme s'il était le seul à avoir occupé la place. On m'a dit « Il est très bien, il a laissé son numéro de téléphone. » Donc j'ai appelé Hervé, il est venu tout de suite, on a parlé et on n'avait aucune place. On n'avait pas de rubrique.
Comment vous le trouvez tout... quand il arrive devant vous ?
Timide. Réservé. Et ensuite, il m'a dit qu'il avait été très ennuyé parce qu'il ne voulait pas que je lise les textes qu'il avait écrits et qui lui paraissaient beaucoup trop hard pour moi. Voilà.
C'est-à-dire La mort propagande, son
voilà,
premier
exactement.
Livre.
Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, moi, je débarquais un peu aussi dans sa vie. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous pouvez être pigiste, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et tout d'un coup, j'ai pensé qu'on avait développé beaucoup les arts et l'architecture. D'où, moi, j'avais, si je puis dire, débauché André Fermigier. Et on avait développé les arts et on parlait beaucoup plus d'architecture et des arts plastiques dans tous leurs domaines. Et je lui dis, bon, alors il y a la photo. Yves Bourde avait fait des chroniques de photos, puis il avait disparu. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez la photo ? Il m'a dit non. Je lui dis, c'est parfait, comme ça vous ne serez pas déformé. Donc vous allez commencer, on va faire des notes photos. Donc je lui ai dit, je serai très sévère, tant mieux. Mais vous ne me trahirez jamais. Vous ne me trahirez jamais.
Je crois qu'on est obligé de parler de vous, j'allais dire de vous trois, puisque Thierry est donc l'homme que vous aimiez et l'homme qui vous aimait. Et au début de votre relation, Thierry tombe également amoureux d'une autre personne qui est Hervé. J'aimerais savoir comment Hervé rentre dans votre vie, comment ça se passe, les choses. Est-ce que c'est quasiment naturelle ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut établir progressivement, douloureusement ?
On s'est rencontré en 73 avec Thierry et on a rencontré Hervé en 76. Donc il s'est quand même passé 3 ans sans Hervé. Bon, c'est vrai que c'est un problème, toujours. C'est une autre personne, ça n'a pas toujours été facile. Il y a forcément de la jalousie, il y a forcément... Dans les deux sens, hein, je veux dire, aussi bien pour moi que pour Hervé. Et puis, il y a eu un cap, je ne sais pas, 1 ou 2 ans après, où tout d'un coup... Je crois que ça vient principalement d'Hervé et de son immense majorité. On s'est dit... Enfin, il s'est dit, bon, ben, on passe à autre chose, quoi, et on... Je ne te prendrai jamais Thierry, je ne suis pas un vrai rival, je l'aimerai toujours, mais tu as ta place, etc. En gros, c'était ça. Hein. Et donc, à partir du moment où on tombe sur quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement intelligent, d'extrêmement bien, on ne peut plus en être jaloux, quoi. Je veux dire, chacun avait son domaine, chacun avait son territoire, et puis voilà. Et notre relation n'a fait que s'agrandir, se développer, et pour aboutir à vraiment une très très belle histoire d'amour, je crois.
Vous pouvez parler d'amour ?
Je parle d'amour, mais je n'étais pas amoureuse d'Hervé. C'est très, très, très étrange. C'est à la fois une grande amitié, une totale confiance. Et le fait qu'on se soit marié, je veux dire, cette cérémonie très courte, très brève, très symbolique, a ajouté quelque chose. Tout d'un coup, il y a eu un petit plus dans notre relation. Mais et lui non plus, on n'a jamais été amoureux l'un de l'autre, bien évidemment.
Ça fait quoi de devenir Christine Guibert quand on est amoureuse de Thierry et qui est là comme témoin derrière ?
Ça fait rien de précis, hein. C'est la continuité de ce qu'on avait commencé. Au début, on ne se rend pas compte. C'est surtout après sa mort que tout d'un coup, je devais prendre le nom Guibert, alors qu'avant, j'avais gardé mon nom de jeune fille. Donc c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenue la veuve Guibert.
Et pour vous, c'était cohérent d'épouser Hervé dans votre parcours, dans votre histoire à trois ?
Au début, moi, je ne voulais pas. Hein. C'est Thierry qui a insisté parce qu'il y avait cette menace, effectivement, de maladie. Hervé se savait déjà malade et voulait absolument nous protéger par le biais du mariage. C'était une mission un petit peu bizarre hein, qui m'est tombée dessus comme ça, dans la mesure où il avait effectivement tout à fait prévu sa mort, comme tout le monde le sait. Il avait fait un testament littéraire très précis, mais il n'avait pas prévu la mort de Thierry, qui était peut-être le plus proche... Le plus proche pour bien connaître et son travail, aussi bien littéraire que photographique. Et le jour où, bien sûr, Thierry est mort, c'est tombé sur mes épaules, quoi. Et donc, il a fallu assumer et suivre surtout ses consignes. En fait, moi, je me suis un peu bornée à ça.
Guibert parlait de Trinité en parlant de vous trois.
Il avait... Bon, d'abord, je trouve qu'il a un parcours assez christique. Il a beaucoup de références religieuses et oui, pourquoi pas. Trinité, oui.
Une petite fille passe devant la porte ouverte de la sacristie où je suis assis, lisant dans la semi-obscurité du soir. Et en me voyant, elle demande à sa mère « Est-ce que c'est un saint ?»
Il entre dans votre vie en quelle année ? En
76.
Il commence à écrire un an plus tard puisqu'il publie La mort propagande en 77. Vous êtes l'une de ses premières lectrices ?
Je l'ai lu assez vite, oui, pas toujours facilement, enfin dans la mesure où je trouvais qu'il est... au début, je le trouvais très brouillon, enfin je trouvais son écriture très brouillon, il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose d'incomplet. Puis bon, moi qui m'irritais, c'était une littérature qui me touchait pas tellement, une littérature de fantasmes, de choses comme ça. Et par rapport à l'incomplétude, j'ai compris son œuvre à la fin, quand tout a été fini. Il le dit dans un de ses textes, je crois. Son œuvre, c'est une maison. Il y a une pièce, chaque œuvre est une pièce, et la finalité, c'est la fin de l'œuvre, quoi, je veux dire, quand tout est fini. Et le tout, c'est vraiment le journal, pour moi, qui est vraiment... qui permet de vraiment tout saisir.
Vous avez compris son œuvre, finalement, quand il était mort. Vous avez pris conscience de quelque chose.
Oui, parce qu'il y a une vraie construction. Je veux dire, le côté inachevé, tout d'un coup, a disparu. En même temps, effectivement, il est fini. Enfin, son œuvre est finie puisqu'il est mort. Donc, mais il y a quand même eu, même si c'est une carrière très courte, je trouve qu'il y a quand même eu une évolution et on a vu vers quoi il allait et ce qu'il a voulu construire. Il y a eu un aboutissement, même s'il est mort jeune.
Qu'est-ce qu'il a voulu construire ?
Sa perception du monde, sa sensibilité au travers d'écritures à la fois autobiographiques, bon aujourd'hui on parle d'autofiction, mais aussi complètement fantasmatiques. parce qu'il y a des livres qui sont complètement fantasmatiques. Moi, je pense à Vous m'avez fait former des fantômes, par exemple.
Et ces livres pornographiques aussi, comme
oui,
enfin, Les Chiens.
J'en donne un. Ouais. Mais dans Les Chiens, il y a aussi de l'autobiographie, hein, beaucoup plus.
Ce phallus noir a le mérite d'être creux, évasé et étanche, de pouvoir être gonflé d'une eau bouillante qui rend le caoutchouc incandescent, à la fois talqué et huilé. De ce phallus noir accroupi, dos à lui, il me force le cul qui cède sous sa pression, et il me le bourre, le tanne, le lime, l'ébouillante, reste accroché à mon cul, bien enfoncé, comme un bouton pression, une merde noire humiliante. Ces épingles à linge ont le mérite d'être crénelées, dentelées à leur bout, et d'être au téton comme des poinçons, des hachoirs, des épingles, des pressoirs, des pinçons. Je les ai choisis spécialement, spécialement méchantes.
Comment vous jugez-vous à l'époque le fait qu'il se dévoile et qu'il dévoile les autres? Est-ce qu'il est un écrivain qui dit tout, Hervé Guibert?
Je ne sais pas, est-ce qu'on dit tout? Est-ce que vous rendez compte à quel point c'est difficile de dire tout? je crois qu'il dit presque tout. Ce qu'on peut dire quand on veut dire tout. Et donc, il y a toujours une marge, et je pense qu'il y a une marge très importante, parce que la richesse même de la personnalité d'Hervé et ce qu'on appellera ses fantasmes ou sa fantasmagorie était tellement étendue, mais personnellement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de lire Sade pour écrire « Vous m'avez fait former des fantômes », vous voyez ? C'est-à-dire « Ou les chiens ». Que, vous savez, c'est le seul livre où je n'ai pas de dédicace et il n'est même pas, et je crois, il n'a même pas voulu que je le lise. C'est comme La mort propagande, parce que c'est sur beau papier et ce n'est pas. Et donc je respectais, je n'ai pas lu Les Chiens, je n'ai pas lu La mort propagande.
Donc mais, vous ne connaissez pas ses textes les plus pornographiques?
Non. À cause de lui, oui, par interdit, oui. C'est vrai, oui.
Mais un interdit, un tabou, ça se brise, Yvonne Babi.
Oui, je pense que je vais le faire un jour.
L'univers, il est très très noir dans les premières. Il est à la fois teinté d'une chose qui a un vrai charme, comme dans Les Aventures singulières ou Les Mages fantômes. Et très très vite, il m'a proposé, m'a montré des photos avec ses tantes, et puis m'a fait lire, avant même de le publier chez Régine Desforges, ce livre que j'ai toujours un mal fou à lire d'ailleurs, qui s'appelait La mort propagande, dont il y a deux versions, je crois, enfin, je veux dire, ce qui est une chose de... Mais en même temps, j'étais fasciné par cet univers, j'étais fasciné par cette violence et cette brutalité.
Vous vous souvenez des premières phrases de La mort propagande, être dans une salle de dissection et dépecer un cul?
Oui. Oui, non, je ne me souvenais pas, mais oui, on ne peut pas lire ça avec indifférence. Je veux dire, on est choqué, révolté, mais il y avait un univers tellement fort, mélange de maladies, de dissection, de fascination pour les déjections, pour les sécrétions, et en même temps une chose incroyablement violemment érotique. Et tout ça sortait d'un être qui donnait l'impression d'être un enfant et d'être absolument angélique, avec le regard le plus bleu que j'ai jamais vu.
Faire filmer mon corps en décomposition, jour après jour, éclaté sous le feu, étalé, cloué, exposé, mimant le supplice des 100 morceaux dans un jeu de masque chinois. Faire disséquer mon paf et mon cul devant l'optique de la caméra. En faire voler les fibres, danser les nerfs, asperger. Ce spectacle ravira plus beau qu'un film d'horreur, plus tragique qu'un sacrifice de sainte dans la mâchoire d'un tigre. Pas de trucage, pas de baudruche. Un vrai corps, mon vrai sang. Prenez et mangez, buvez ma paranoïa, ma mégalomania. Je le viderai avec fureur et ivresse. Le sang chaud de l'héroïne auparavant pulsera mes veines, le saignerai et le ferai éclater comme un sac. Le public sera pris de convulsions, contractions, répulsions, érections, vibrations, jouissances, dégueulis de toutes sortes. Son corps général, à son tour, se mettra à parler. Cet œil grand ouvert qui bascule à l'intérieur de l'orbite, cette fente blanche et vitreuse, lui fera lui aussi tourner de l'œil. Tripes et cervelle éclabousseront, répandant dans un poudroiement l'extase de la puanteur. Hollywood et Babylone peuvent être réduites à l'espace d'une chambre de bonne, avec un seul participant, qui voudra bien produire mon suicide, ce best-seller.
C'est toujours émouvant de rentrer comme ça dans votre galerie où d'ailleurs il y a toujours du monde, parce qu'on se dit qu'un jour de 1977, il y a un grand garçon mince et élégant qui a poussé cette porte lui aussi, qui s'appelait Hervé Guibert.
C'est inoubliable.
Agathe Gaillard.
C'est inoubliable. J'étais assise, normalement, à mon bureau, et la porte est ouverte, là, celle-ci. Et j'ai vu entrer deux jeunes gens d'une grande beauté. J'ai remarqué leur grande beauté. C'était Hervé, accompagné de Thierry. Et c'était, il faisait des articles pour Le Monde depuis un mois, quelque chose comme ça. C'était tout à fait le début. Et donc, il avait encore un peu peur. Il était encore très timide. Donc, Thierry l'accompagnait. Mais c'est marrant. Je revois absolument la scène. Il a fait le tour en passant par là. Fait tout le tour. Et après, il est arrivé là-bas. Et moi, j'étais là-bas. Et moi, j'avais repéré, évidemment, ce jeune homme qui... très attentif, très sérieux, qui prenait quelques notes. Et je me suis débrouillée pour me mettre sur son chemin. Et après, il a écrit dans l'article « Agathe Gaillard est sympathique, elle parle volontiers avec les gens qui viennent dans sa galerie. » Il était très simple comme ça. Hein. Il était très naïf quand il était... il avait 21 ans et demi. C'était très jeune.
Et un lien s'établit entre vous à ce moment-là ?
Non, parce que moi j'avais pour principe de ne pas devenir trop intime avec les journalistes. Parce que j'avais remarqué que quand on les connaît trop bien, après ils ne parlent plus de vous jamais. C'est vrai. Ce qui les intéresse, c'est les gens qui ne connaissent pas. Et puis Hervé était quand même un peu refroidissant. Hein. Il n'était pas... c'était pas le genre qui tapait sur l'épaule les copains comme étaient les autres.
Donc vous commencez à le lire dans Le Monde.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de ces papiers ? Comment vous jugez ces critiques ?
Je les trouve très intéressantes à lire, parce que c'était pas des articles, c'était pas des cours qu'il faisait, c'était pas des critiques, c'était sa vie. Il racontait, je vais là, j'entre, je vois ça, ça se trouve. C'était des morceaux de son vécu. Et c'est ça qui en faisait un journaliste intéressant, c'est qu'il racontait sa vie. Déjà, il racontait sa vie comme un romancier. Et sa vie, ça consistait à aller voir des expositions, à entrer dans des galeries. Et c'était pour ça qu'il pouvait être très gênant, parce qu'on avait l'impression qu'il voyait tout. Il faisait pas abstraction des choses pour regarder seulement l'exposition. Il voyait tout ce qui se passait, il entendait qui parlait, qui était là. Et éventuellement, il en parlait dans ses articles. Donc on avait l'impression que le hors-champ l'intéressait beaucoup, et ce qui était insécurisant, parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'il va raconter ? Et en fait, il n'était pas si indiscret que ça, je trouve.
Est-ce que vous étiez fasciné par le côté homme d'image de Guibert ? Est-ce que vous trouviez que son écriture était photographique ou pas ? Est-ce qu'il avait
non.
un œil photographique, non ?
Ah oui, il avait l'œil photographique, et c'était un bon photographe en plus.
Vous en avez ?
Ben, il y en a partout, là.
Alors, je le vois...
une et deux, derrière... derrière son frère, c'est une photo d'Hervé. Et ça, c'est Hervé et moi. C'est une photo d'Hervé aussi.
Ah, je vois Cannes.
Oui.
83, l'homme blessé.
Oui, c'est ça.
À côté, je vois Venise.
Oui. Non.
Ah oui, c'est la Villa Médicis.
Et puis ça, c'est une photo avec un éléphant qui a fait. Elles sont signées, d'ailleurs. J'en ai une autre ailleurs.
Puis là-bas, vous avez un mannequin de cire.
Exactement.
Sa première exposition.
Oui. Elle doit être dédicacée derrière.
Pourquoi vous avez Hervé Guibert autour de vous ?
Parce que c'est des belles photos. C'est des belles photos. Que j'ai énormément aimé, mais comme tout le monde, les articles qu'il a fait sur la photo, que j'ai trouvé que c'était une idée brillante d'Yvonne Babi de lui avoir demandé de le faire et qu'il l'a fait magistralement pendant des années, que lui-même était un bon photographe.
Il en doutait, hein ?
Oui, oui, mais enfin, il était fort quand même. Hein. Et donc je pense qu'il a fait deux métiers bien, je veux dire très bien d'écrire, je veux dire avec une vraie profondeur, une vraie invention, une vraie langue, et puis il a été très bon photographe, voilà.
Yvonne Babi dit que quand elle le relit, elle se dit c'était un moraliste.
C'est vrai, à travers la photo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parmi les choses les plus belles, je trouve, qu'il ait écrites, les textes sur la photo, les plus profonds. Et la fréquentation qu'il a eue des photographes, des grands photographes encore vivants, était magnifique. Ce qu'il racontait sur Kertész ou sur Cartier-Bresson était magnifique. Un article où il expliquait que Kertész ne prenait plus que des Polaroids parce qu'à son âge, il n'avait pas le temps d'attendre le développement. Donc il voulait que l'image apparaisse tout de suite et que dans New York, il faisait ça. C'est des très beaux textes, très très beaux textes.
En même temps, dans une contradiction permanente, parce qu'il disait, pour moi, un vieux photographe, c'est quelque chose d'obscène. Alors qu'il était fasciné par l'Arctique, Cartier-Bresson, etc.
Bien sûr, oui. Il n'était pas une contradiction près.
Il y a beaucoup de dormeurs dans les photos de Cartier-Bresson. D'hommes épuisés, qu'on dirait presque assassinés par la vie. Il y a des foules qui se pressent vers on ne sait quoi, qu'on presse sans qu'elles sachent où, vers l'or, vers le sang. Il y a des formes qui fuient dans des décors implacables. On n'a plus qu'à avoir recours à sa propre émotion devant l'image de cet enfant en tablier qui s'est cabré, en un éclair de seconde, qui a dansé devant le photographe, qui a mimé pour lui la folie devant un mur léprosé à Valence, en Espagne, en 1933. La photo, dans ces moments-là, devient un éblouissement, un vertige d'existence.
À partir de quel moment vous découvrez que Hervé Guibert prend des photos ?
Alors, j'ai découvert ça quand il a exposé des bribes, il appelait ça bribes, chez Samia Saouma. La galerie de Samia Saouma appartenait à Samia et à deux associés, dont l'un était un ami d'Hervé, l'ami qui ne lui a pas sauvé la vie. Et donc, il y a eu une exposition de quelques fragments qu'il appelait à bribes, de Suzanne et Louise déjà, quelques photos de Suzanne et Louise, les premières, et des photos du palais du musée Grévin. Et donc, je suis allée et en me disant, mais quelle drôle d'idée d'exposer les photos d'Hervé Guibert. Et j'étais très touchée par leur fraîcheur. La même fraîcheur qu'Hervé, quelque chose de très simple, mais qui s'imposait. Et après, le livre Suzanne et Louise a été fait par les éditions Libre Allier, où travaillait ma sœur. Et donc, on a aimé l'idée de faire quelque chose ensemble. Et à la sortie du livre, on a fait une présentation de l'ensemble des photos ici à la galerie. Ça a été la première exposition, ça devait être en 80.
Il faut absolument nous parler de ce livre, Suzanne et Louise, qui est un livre magnifique, qu'il a sous-titré « Roman photo ».
Oui, mythique. Oui, c'est ça. Roman photo, c'est un... C'est un livre qui ne ressemble à rien et j'aimerais bien qu'il soit réédité parce que c'était quand même tellement extraordinaire. C'était un livre qui mélangeait donc les photos qu'il prenait de ses deux vieilles tantes avec qui il jouait comme avec des compagnes de jeu. Après le musée Grévin où il manipulait des mannequins de cire. Il avait, comme il était quand même timide, il était passé à ses tantes. À ces deux vieilles tantes qui vivaient ensemble, qui adoraient leur petit neveu et à qui ils faisaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et donc c'était une sorte de théâtre où les tantes étaient à la fois dans leur rôle quotidien et à la fois ils leur mettaient des muselières, ils les faisaient défaire leurs cheveux. Enfin, ils jouaient quoi. Il avait trouvé des partenaires et elles. Donc il y avait une telle liberté dans leur jeu que c'était assez érotique. Bien que ce ne soit pas du tout, ça n'aille pas plus loin que les jeux, mais il y avait un érotisme dans cette liberté absolue entre ce très beau jeune homme et ces deux vieilles femmes, qui avaient 80 et 70 ans, je crois, à l'époque.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement, effectivement, du jeu, presque du jeu d'un enfant qui s'amuse, et de la perversion absolue, c'est d'une cruauté sans nom.
La perversion des jeux d'enfants, pas plus. Pas plus. Il n'y avait rien de dégoûtant entre eux. Hein. C'était vraiment du jeu. Et lui les manipulait et elles étaient ravies d'avoir un metteur en scène comme lui. Il a écrit une pièce de théâtre, il a fait des tas de choses, il voulait vraiment les mettre en scène, c'était des personnages, il a su d'ailleurs en faire des personnages. Et donc il y a une photo, et puis à côté, il y a un texte qui parle de la photo, qui raconte les circonstances de comment la photo a été prise. C'est ça qui était intéressant chez lui, il a compris qu'une photo, c'est pas juste une image, c'est une histoire, c'est une relation avec quelqu'un, et raconter de comment la photo a été prise, c'est parler de cette relation.
Louise, oui. Toi, tu as 85 ans.
Exact.
Moi, j'ai 35 ans.
Ah, mais ça a une petite différence.
Oui.
On a pas tellement d'âges différents.
50 ans de différence.
Oh, qu'est-ce que c'est que 50 ans?
Oui, c'est pas énorme.
À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe.
Oui. Alors, dis-moi, je voudrais qu'on parle un peu du sida ensemble.
Je veux bien.
Qu'est-ce que c'est le sida? Tu sais ce que c'est?
Non, c'est un microbe qui rend très très malade et qui fait mourir certains.
Oui.
Jusqu'à maintenant, on sauve très peu de malades du sida.
Oui.
C'est ça, hein?
Pourquoi on en sauve très peu?
Parce qu'on n'a pas encore trouvé le remède pour le tuer.
Pour tuer ce microbe.
Ah oui, c'est ça qu'il faudrait.
Mmh.
Parce qu'une fois qu'on l'aura, alors on va le nourrir. Non, ce qu'il faudrait, c'est le tuer, qu'il disparaisse complètement.
Oui.
Mais un autre le remplacera.
Qui te l'a appris, toi, que j'avais moi le sida?
On le supposait, puis que les précautions que tu prenais au début.
Et toi, tel que tu me vois, tel que tu me sens, tu me sens très près de la mort?
Non, pas du tout. Il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes et que vous arriviez à vous guérir de cette maladie.
Mais tu crois que je vais m'en sortir?
T'as l'air d'être en bonne situation.
Mieux que la dernière fois.
Ah, beaucoup mieux. Oui.
Moralement aussi, beaucoup mieux.
Oui. Et c'est ça surtout qu'il faut soigner, c'est le moral.
Oui.
Très très souvent dans ses textes, il raconte la prise de photo. Il écrivait comme en photographie, et il fait une photographie assez on peut dire photographie littéraire, en ce sens qu'elle évoque un monde romanesque, et il écrit comme il photographie, c'est-à-dire que il prend comme sur une planche de contact, il prend dans le réel les moments qui lui sont nécessaires, il laisse tomber les autres, et en attendant de s'en servir une autre fois, et il se sert de cela. Donc il fait exactement comme un photographe qui choisit sur la planche contact les images qui sont nécessaires à son propos et oublie les autres, momentanément.
Je rêve d'une forme plus nécessaire de photoroman. Des journaux intimes reliés à des photos de famille, des journaux de voyage écrits et photographiés en même temps, des scénarios de films accolés aux photos de repérage et de préparation de prise de vue. Je rêve que la photographie semble un même travail manuel que la calligraphie. Je rêve que les photographes se mettent à écrire et que les écrivains prennent des photos. Qu'il n'y ait plus d'intimidation des uns aux autres. Que chaque activité soit l'indicible, l'innommable, autant que l'extension, la désatrophie de l'autre.
J'ai compris qu'il fallait me méfier parce qu'on se retrouve, on s'est tous retrouvés, tous ses amis, dans ses livres. Donc ça, c'est...
Vous êtes devenu un personnage guibertien, comme on dit.
Pas beaucoup, il n'est pas arrivé avec moi.
Pourquoi?
Ah bah, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il n'y arrivait pas vraiment. J'apparais de temps en temps, tantôt sous mon vrai nom, tantôt sous un pseudonyme.
Théo,
oui. Mmh. Mais je ne suis pas apparu dans les livres, heureusement d'ailleurs. Je ne suis pas apparu dans les livres, mais les choses les plus... Et puis il y a un texte comme ça, ahurissant, où il parle de moi comme d'un metteur en scène cinglé, fou, ou là un acteur fou qui m'a présenté un metteur en scène. Donc ça, c'était Hugues. Et j'ai été épargné. J'ai été épargné parce qu'à un moment donné, la moindre chose qu'on lui racontait, elle finissait chez Gallimard. Donc,
Vous aviez la trouille de ça?
Non, mais... Mais à un moment donné, j'étais bluffé. J'ai toujours été bluffé par cette capacité de ne rien garder et de tout raconter de ce qui, en gros, de ce qu'il savait sur beaucoup de gens.
En même temps, il ne raconte pas tout. Il joue aussi avec le mensonge, la fiction.
Oui, oui. Ah bah, c'est tout le temps faux et tout le temps vrai. Mais à un moment donné, quand on tombe sur des choses absolument vraies, qui bifurque à un moment donné. Il a décrit cet appartement, par exemple, en long et en large dans un texte, et puis il dit à un moment donné, ça n'est plus parce que maintenant c'est devenu du bureau. Non, ça n'est jamais devenu un bureau, et la pièce est à côté, là où on a travaillé ensemble. Évidemment, ça bifurque tout le temps, mais c'est ça que je trouve très beau dans son écriture. C'est jamais vrai, mais à un moment donné, on tombe nez à nez. En tant qu'intime d'Hervé, on tombe quand même nez à nez avec des choses, soit qu'on lui a dites, soit qu'on a vécues avec lui.
Moi, je dirais pas que c'est des règlements de compte, je dirais plutôt que c'est des épreuves comme ça que je tends à mes proches, à ceux que j'aime, à mes personnages, parce qu'en même temps, bon, ces personnages, ils sont là de bout en bout de mes livres. Musil Foucault, qu'on l'appelle Musil ou Foucault, j'ai dédié un livre déjà qui était dédié à mon voisin, ce qui était lui, évidemment, une façon discrète de lui dédier un livre. J'avais dédié des aveugles à l'ami mort, c'était évidemment lui. Le personnage de Marine, elle est apparue dès mon premier livre. C'était un personnage qui, à l'époque, n'était qu'une initiale, I. Donc tous ces personnages, que ce soit Jules, Berthe, ils sont là dans tous mes livres. C'est les personnages de ma vie, quoi. Alors, ils prennent des noms différents d'un livre à l'autre. Ils ont des activités différentes. Enfin, ils interviennent. Bon, alors c'est des choses que je leur propose aussi, c'est des épreuves qui sont parfois très 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 risquées, très limites, et jusque-là, on a l'impression que ça va faire des dégâts terribles, j'en ai souvent très peur, ils en ont aussi très peur, et puis finalement c'est un maillon qui, je crois, qui consolide aussi l'amitié, la confiance et la tendresse.
Est-ce qu'il était narcissique ?
Oui, je crois. Oui, je pense. C'est pas une tare, hein, je veux dire, c'est...
Est-ce que vous l'êtes aussi, vous ?
Non, je crois pas. Non, sinon je serais devenu acteur. Mais je,
vous l'êtes
j'ai
un
pas...
peu, de temps en temps ?
Mais avec aucun insiste, j'ai aucun plaisir. Non, c'est par accro, par défaut. Non, je me considère pas comme acteur. De temps en temps, j'y arrive, mais rarement. Non, mais...
Mais son œuvre n'est pas vraiment narcissique, malgré tout, même si le jeu est très présent.
Si, il dit à un moment donné dans un texte qu'il n'imaginait pas de personnage qui ne soit pas qui ne soit pas lui-même. C'est quand même une personne qui a écrit, mais je dis avec admiration, une pièce de théâtre qui s'appelle Moi.
Inédite.
Inédite, mais enfin, dont le sujet principal, c'est moi. Lui, donc. Et moi, ensuite, là, il y a les répliques. Je veux dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est au-delà de l'autoportrait, mais en même temps, c'est toujours faux. En même temps, c'est toujours mensonger. Non, il était, je veux dire, tout tourne absolument autour de lui. Ce qui est devenu fascinant quand il est devenu malade, parce qu'il avait une capacité de se décrire, et une complaisance dans l'absence de complaisance, ou une absence de complaisance dans la complaisance, que je trouve très, très bouleversante. Très bouleversante.
Et une fascination aussi pour ce corps malade et souffrant.
Oui, comme s'il l'avait... Oui, parce que avec cette chose étrange dont on peut tirer aucune leçon, qui est que ça se mettait à rejoindre les premiers textes qu'il avait écrits. Mais c'est, on ne peut pas en tirer de conclusion, aucune conclusion particulière, en fait.
J'avais à l'égard de P un sentiment biscornu. À la fois, j'aurais pu dire que je l'aimais, et lorsqu'il m'arrivait de me retrouver en face de lui, enfin, j'avais envie de lui sauter à la gorge.
Je l'aimais beaucoup, lui, comme personne. J'aimais ce qu'il était, j'aimais la façon... c'était un martien à l'époque, c'était un très beau jeune homme de 19 ans, très très blond, avec une peau incroyablement diaphane, qui donnait l'impression d'une extrême fragilité, d'une extrême sensibilité, comme ça. Alors qu'en fait, il était plus fort qu'il ne le laissait voir. Mais il avait 20 ans, donc. Et je lui ai proposé d'écrire un scénario qui est devenu par la suite L'homme blessé. Je lui ai proposé de travailler avec moi, de ranger un petit peu mes archives, les quelques notes que j'avais prises sur le film, puis de démarrer sur l'écriture d'un film, alors que j'avais lu des contes pour enfants. Pourquoi j'ai eu cette intuition, je ne me l'explique pas, toujours pas. Et voilà, et on a continué à avoir une sorte de discussion permanente, régulière, jusqu'au moment où on a commencé à écrire le scénario ensemble. Donc on a appris mutuellement, à force de faire ce scénario. Ça, on a commencé vraiment, profondément, vers 76, je crois, jusqu'en 77, 78. En 78, je suis parti sur un autre film, et on a tout repris en 80.
Alors qu'est-ce qu'il vous apporte progressivement, Guibert ?
Il apporte un foisonnement romanesque, Il apporte une mise en ordre, parce que je la lui demande et qu'il me la procure, de mes idées. Il apporte un approfondissement de l'idée même de trahison, un approfondissement de l'idée du désir. Il apporte une grande qualité de dialogue, très, très, très brillant, très percutant et très, assez, assez vrai, et toujours transposé. Il m'apporte une qualité d'écriture. Moi, j'ai été frappé toujours. La première chose qui me frappe, c'est les gens qui savent écrire. Ça a été le cas avec Hervé, c'était le cas avec Coltès. Ça a été le cas avec les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit Kouréchi ou Auster. Je suis très, très frappé par l'écriture. Je suis impressionné, en plus, par les gens qui savent écrire. Il apporte une langue, il apporte un univers.
Il y a dans le seul visage tout l'univers de Guibert. Il y a les siens, il y a ses personnages.
Il y a ses personnages. Et quelques lieux. Et quelques lieux, quelques décors.
On regarde un peu ?
Oui. Alors, voilà. D'accord. Dans la quatrième de couverture, tout est dit. Un livre avec des figures et des lieux, n'est-ce pas un roman ? C'est formidable, hein ? Et chaque fois, ce sont pas vraiment des portraits. Bon, ça montre des gens qu'on peut dire leur nom, Claire, Gorka, Zouzou. Mais il y a aussi des.
Il y a vous d'ailleurs.
Oui, mais voyez, je suis appelée Prague, comme là Thierry est appelé Sienne, parce que c'est des portraits d'un moment. C'est pas un portrait de Thierry ou un portrait de moi, c'est le portrait d'un moment précis de notre vie.
Vous parleriez de photos romanesques pour les photos de Guibert ?
Oui. Ouais.
Voilà. Thierry revient beaucoup.
Thierry, toujours, par sa beauté, par sa présence dans la vie d'Hervé et puis dans l'imaginaire d'Hervé. Thierry est quand même une constante. Il revient tout le temps comme quelqu'un qui... Je ne sais pas, comme quelqu'un de protecteur, je pense. Christine, qui... a pris maintenant une importance qu'on ignorait qu'elle allait avoir. Mmh. Et la célèbre photo de Michel Foucault.
Le voisin.
Le voisin. Photo qui est difficile à expliquer. Pourquoi cette photo de Foucault avec un kimono est devenue le portrait préféré de Foucault ? Probablement que ce kimono lui va très bien, qu'il est beaucoup mieux en kimono qu'en costume, qu'il doit être plus ressemblant à l'image qu'on a de lui, je ne sais pas. Mathieu, avec son livre et ses lunettes. Un livre de la Pléiade, on dirait. Hein. C'est du sérieux. Mathieu est dans la chaise longue et lit. Patrice Chéreau et Isabelle Adjani, ça c'est les grandes admirations du cinéma et du théâtre. Je pense que très jeune, il a dû les admirer au point de s'identifier. Je pense qu'il s'identifiait à Isabelle Adjani, qui se disait que s'il avait été une fille, il aurait bien aimé être comme elle, comme une jeune comédienne comme ça. L'image qu'elle avait à l'époque, quelqu'un d'extrêmement doué.
Et il les approche, hein, ces personnages qui les fascinent.
Oui.
Il rencontre Chéreau, il réussit à travailler avec lui.
Il les rencontre et il insiste pour ça. Il est d'abord mal reçu hein, par les deux.
C'est vrai.
Ah oui, Isabelle Adjani lui a fait quelques vacheries.
Jean-Marc Roberts, romancier et éditeur.
Moi, j'ai connu Hervé bien avant la publication d'Alami qui ne m'a pas sauvé la vie. Je l'ai connu au début des années 80. On s'est rencontrés grâce à Isabelle Adjani, bizarrement. Et puis, Jérôme Lindon et Hervé avaient eu un différend sur des aveugles, je m'en souviens. Et je n'ai jamais su trop ce qui s'était passé entre eux. Mais je me souviens qu'Hervé était venu m'apporter des aveugles au Seuil, où je travaillais à l'époque. Et c'est l'un des grands désespoirs de ma vie. Le Seuil, à l'époque, venait de... C'est de la petite cuisine éditoriale, tout ça, mais venait de prendre en distribution les éditions de Minuit. Et on m'avait dit, on ne peut pas faire ça à Lindon, on ne peut pas publier Hervé Guibert, auteur important de Minuit, au Seuil, ça va fâcher Jérôme Lindon. Et donc j'ai vu partir Hervé vers Gallimard. Je m'en suis jamais remis. On s'est vu souvent sans comprendre si on était vraiment amis. Je pense qu'il n'y a pas de coup de foudre en amitié, donc, enfin pour moi en tout cas. Donc, Ça a été une longue complicité, je dirais. Et puis un jour, Hervé s'est souvenu que j'aimais vraiment son travail et sa personne, et il m'a apporté « Mon valet et moi », que j'ai publié en 91. Et puis, l'un de ses derniers textes, ou plutôt son dernier texte, « Cytomegalovirus », là on est en 93.
La salope qui m'avait fait entrer dans la chambre pas désinfectée entre triomphalement à 7h30 du matin avec une blouse de papier bleu transparent. Elle veut que je mette ça tout nu et me permet de garder le slip. Je lui dis « Il faudra que vous attendiez que je sois beaucoup plus bas que je ne suis pour arriver à me faire traverser un hôpital sous ce machin. La seule façon pour vous de me le faire accepter serait que vous descendiez avec moi dans la même tenue, main dans la main, et je vous autoriserai le soutien-gorge comme vous m'autorisez le slip. »
Vous le rencontrez dans les années 80, à l'époque où il n'est peut-être pas encore malade. En tout cas, il n'a pas encore révélé dans ses livres sa
voilà,
maladie.
En tout cas, s'il est malade, il ne sait pas qu'il est malade. Il est peut-être porteur du virus, mais il ne le sait pas. Et il est d'une beauté incroyable. Il a été beau jusqu'au bout, comme il en rêvait, finalement. On ne l'a jamais vu... Moi, je l'ai vu presque jusqu'au bout. Je dis presque parce que je ne l'ai pas vu à l'hôpital. Mais je l'ai vu juste avant l'hôpital et il a toujours été de cette beauté vraiment fascinante. Enfin, une beauté qui, même dans sa maladie, ne faisait pas peur aux gens. Ce sont des scènes qu'il raconte dans le protocole compassionnel. Il y a une scène dans l'autobus, notamment, où des jeunes gens viennent l'aider, viennent lui parler. On peut deviner sa souffrance, mais il est si beau et si gracieux qu'il n'est pas gênant pour celui ou celle qui s'approche trop près de lui. Donc je l'ai connu déjà très beau, je l'ai connu écrivain sans succès, scénariste donc de Chéreau, c'était L'homme blessé.
83.
Voilà, le César du meilleur scénario. Mais même avec L'homme blessé, il n'avait pas encore connu la reconnaissance, le succès public. Et je me souviens très bien de cette époque où Hervé m'avait dit... Il faudrait qu'il m'arrive un grand malheur pour que je connaisse le succès.
La maladie, je pense qu'elle survient en 1988.
Leur test est fait en 88, donc ça veut dire que déjà avant, lui pensait être malade. Et il était, puisque effectivement ça a été confirmé par le test. Non, il avait déjà eu des symptômes. Et de toute façon, il s'est toujours cru malade. Thierry le traitait d'hypochondriaque en permanence.
Comment il réagit ?
Je ne l'ai pas vu, moi, de retour du résultat du test. J'ai vu Thierry. Bon, en plus, ce jour-là, il ne pouvait rien dire puisqu'on avait un ami à la maison. C'est sur le temps que je l'ai vu. Je pense qu'effectivement, à la fois, dans toute chose négative, il y a du positif. Et pour lui, tout d'un coup, ça a été un outil merveilleux, sa maladie. C'était à la fois épouvantable, bien évidemment, mais ça a été un outil, et à la fois dans l'étude très très profonde de son être, de son parcours, et d'expérience totale de torture, de peur, d'angoisse, de relations humaines, parce que tout d'un coup, tout devient très très aigu.
Et finalement, il va y avoir une cohérence absolue là, dans son œuvre, puisque... Dès les premiers livres, il y a cette fascination du corps, cette idée de la maladie, et puis surtout, cette idée que la mort est là.
Ben oui, tout se tient, tout d'un coup, la mort propagande, premier titre, ben oui, c'est complètement juste. Et bizarrement, toutes les pièces se mettent en place.
Bien avant la certitude de ma maladie sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang, tout à coup, découvert, mis à nu. Comme si un vêtement ou un capuchon l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience, puisque cela était naturel, et que quelque chose les ait retirés. Il me fallait vivre, désormais, avec ce sang dénudé et exposé, comme le corps dévêtu qui doit traverser le cauchemar. Mon sang démasqué, partout et en tout lieu, et à jamais, à moins d'un miracle sur d'improbables transfusions, mon sang nu à toute heure, dans les transports publics, dans la rue, quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux? Le souci n'est plus tant de conserver un regard humain que d'acquérir un regard trop humain, comme celui des prisonniers de Nuit et brouillard, le documentaire sur les camps de concentration.
Quand il est malade, il écrit ce livre qui le rend célèbre, précisément, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie.
Oui.
Comment vous réagissez-vous quand vous lisez ce livre? 90.
Mais 90, ça fait quelques années que je ne l'ai plus vu. Donc je réagis à ce livre en l'appelant immédiatement, puisque je ne savais pas qu'il avait le sida. Donc voilà, j'ai pris de ses nouvelles, mais dans la seconde. Je me souviens encore de l'endroit d'où je l'ai appelé. Et on s'est revus.
Vous avez parlé avec lui du livre?
Oui, oui, bien sûr, que je trouve très beau en plus. Très beau, avec ce mélange de qui est que je incapable de savoir incapable de savoir où est le vrai, où est le faux. Je veux dire, quel est cet ami, qui est-il, je ne le connais pas. Je veux dire, mais et voilà. J'ai parlé du livre avec lui. J'ai parlé de Foucault, puisque moi j'avais connu Foucault, et j'ai connu Foucault beaucoup grâce à Hervé, puisque comme quand ils étaient voisins, je suis venu souvent dîner chez Foucault avec lui. Et puis, il était obsédé à ce moment-là par la réaction d'Isabelle Adjani. Alors, j'ai transmis le message, parce que j'étais en discussion avec Isabelle à ce moment-là, j'ai transmis le message en disant, Hervé a envie d'un signe de toi. Elle dit, oui, oui, je vais le faire. Et un jour, j'ai eu une lettre d'Hervé en disant, j'ai reçu la lettre d'insulte d'Isabelle Adjani. Voilà.
Il a écrit un scénario pour elle.
Oui.
Elle lui avait dit oui, et puis ça ne s'est pas fait.
Non.
Il a été très heurté, il en a voulu, il l'a écrit dans son livre.
Oui, il a tout écrit, oui.
Il a parlé de la rumeur de sida d'Isabelle Adjani, attribuée à Isabelle Adjani.
Oui.
Ils se sont fâchés très fort. Pourquoi ce film n'a pas eu lieu, d'après vous?
Oh, c'est très compliqué de demander. D'abord, je crois avoir lu le scénario, et je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il avait utilisé de façon très violente des choses que Isabelle lui avait racontées de sa vie, en particulier la mort de son père à l'hôpital. Je pense que la scène est dans le scénario. Donc à un moment donné, si on veut faire, mais ça c'est tout Hervé. Il écrit un scénario pour Isabelle Adjani. Il met des morceaux entiers qu'Isabelle lui a racontés dans le scénario. Et il va lui demander de les jouer. Donc elle avait dit oui peut-être avant de lire le scénario. Est-ce qu'elle a aimé le scénario? Peut-être visiblement pas. Est-ce qu'elle avait envie que ce soit Hervé qui réalise le film? C'est ça qu'il ne dit pas dans le livre non plus, c'est qu'il lui a refusé, mais parce que au départ c'était un scénario, c'était pas lui qui, peut-être pas lui qui devait le réaliser. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. On écrit pour un acteur, et l'acteur ou l'actrice ne fait jamais le projet. C'est...
Vous auriez aimé tourner ce film, ce scénario?
Non, je l'avais pas aimé. Non, je l'avais pas aimé.
Pourquoi? Vous vous souvenez plus?
Je me souviens que c'était un scénario qui m'avait pas beaucoup intéressé. De même que je suis pas dingue des pièces de théâtre. Je pense que son univers. Ce que j'aimais profondément de cet univers était ailleurs, mais voilà. Non, j'ai pas. Le scénario m'avait laissé un goût bizarre, mais comme une chose pas finie ou je sais pas. Je veux dire, c'était.
À t'avoir raconté cette histoire, je m'en sens complètement vidé. Cette histoire est mon secret, tu comprends? Et après? À toi, je ne veux pas dire. Je t'en prie, ne la répète pas. Oui, mais maintenant ton secret est devenu aussi mon secret. Il fait partie de moi. Et je me comporterai avec lui comme avec tous mes secrets. J'en disposerai au moment venu. Et il deviendra le secret d'un autre. Tu as raison. Il faut que les secrets circulent.
Qu'est-ce que vous avez appris de sa littérature? On a appelé ça les débuts de la littérature sur le sida. Vous l'avez découvert avant qu'il révèle sa maladie avec Foot Vincent. On ignore encore qu'il est atteint du sida. Et puis vous tombez sur un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Vous êtes encore tout jeune. Et là, il va mettre en scène le désastre du sida. Ça, c'est d'une violence sans nom, j'imagine, à l'époque où vous lisez ça.
Bah oui, parce que c'est...
Philippe Castet-Bon.
Ce livre-là arrive au moment de la découverte de la sexualité. Donc... tout d'un coup ça devient effrayant, et en même temps ce que j'ai appris tout d'un coup, c'était qu'on pouvait faire un livre qui s'appelle un roman avec une histoire vraie, et Et en même temps, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont du roman. Enfin, c'est ce qu'on... l'autofiction, quoi, que tout le monde fait aujourd'hui. Mais tout d'un coup, se dire, zut, on peut faire un livre sur lequel on met roman, en même temps, on raconte sa vie, et on appellera ça un roman.
Foucault dit, dans ses livres, il ne lui arrive que des choses fausses.
Peut-être à lui aussi. Mais c'est ça, par rapport à l'idée de retrouver les lieux, retrouver les rues, les gens, moi j'aime bien l'idée de me dire que c'est peut-être tout est faux, et que donc peut-être qu'il n'a jamais habité rue du Bac, mais qu'il y était quand même, mais je ne serai jamais à quel endroit, mais peut-être que c'était jamais rue du Bac, qu'il y a l'île d'Elbe qui existe, où il est là-bas, mais peut-être jamais, enfin, que tout est vrai et faux en même temps, que ça peut être, enfin, c'est comme nos vies, quoi.
Il y a une très belle phrase de Mathieu Lindon qui dit « Hervé Guibert dit « je » et ses lecteurs le croient ».
Ben oui. Ben oui, je ne peux pas rajouter quelque chose à une phrase de Mathieu Lindon. Voilà, Mathieu Lindon, c'est que, voilà, un autre.
Vous l'avez rencontré ?
Non, jamais. Ça viendra a priori dans pas longtemps. Mais voilà, un autre, voilà, que je lis et qui parle de Guibert dans ses livres. Donc ça revient toujours, quoi, par à coup, comme ça, involontairement.
C'est une des phrases qui m'émeut le plus de son journal, quand il dit à la fin maintenant, une des dernières pages, où il dit maintenant quand dans un roman je rencontre un personnage vieux, je me dis voilà quelque chose que je ne connaîtrai jamais. Quoi, oui. Il est mort à 36 ans, oui. Mais il avait fait beaucoup de livres. À une époque, bizarrement, les critiques trouvaient qu'il faisait trop de livres quand il écrivait, comme si la quantité était un élément tout à fait indépendant de la qualité. On n'avait pas un élément, on disait, ah, ça fait beaucoup de livres, et puis bon, il a bien fait, non ?
Mais il décide de livrer sa maladie, non pas en pâture, mais au lecteur et au public, avec un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Comment vous, Mathieu Lindon, comment vous réagissez quand vous lisez ça ?
Non, c'est pas moi, j'y apprends rien dans le livre, d'une certaine manière, puisque bien sûr j'étais au courant. Je me rappelle, on était à l'époque, on était à la Villa Médicis à Rome tous les deux. On avait été chacun pensionnaire et il me dit j'ai vu ce manuscrit et je lis ce manuscrit que j'aime énormément et je trouve que je dis souvent que malgré comme les gens qui aiment beaucoup Hervé Guibert, comme toujours quand on aime beaucoup un auteur qui est un peu confidentiel et que tout à coup il a beaucoup de succès, on est un peu triste de le partager avec beaucoup de lecteurs et on dit toujours oui mais c'était beaucoup mieux avant et tout. Et je trouve que c'était très bien avant, mais je trouve qu'un ami qui ne m'a pas sauvé la vie, malgré son succès, est un très grand livre. Que j'ai beaucoup aimé, je sais pas moi, mais je trouve qu'il a une force étonnante. Je crois qu'en fait, ce qu'Hervé redoutait de ma lecture, je crois que vraiment il redoutait quelque chose qui était extra-littéraire en vérité. Comme on s'était connu par Michel Foucault et que Michel Foucault a une importance considérable dans notre vie à tous deux et dans notre relation à nous deux, je crois qu'il avait peur que je trouve que c'était une honte, quoi, qu'il aurait pas dû faire ça, quoi. Ou d'une certaine manière, la façon dont il parlait du compagnon de Michel Foucault. Enfin, je crois que c'est ce qu'il attendait exceptionnellement de ma lecture. Là, ce qu'il redoutait n'avait rien à voir avec la littérature, mais plus avec quelque chose de cet ordre, de ma relation par rapport à la façon dont il parlait de Foucault.
Musil adorait les orgies violentes dans les saunas. La crainte d'y être reconnu l'empêchait de fréquenter les saunas parisiens. Mais quand il partait pour son séminaire annuel près de San Francisco, il s'en donnait à cœur joie dans les nombreux saunas de cette ville, aujourd'hui désaffectée à cause de l'épidémie, et transformée en supermarché ou en parking. Les homosexuels de San Francisco réalisaient dans ces espaces les fantasmes les plus insensés, mettant à la place d'urinoirs de vieilles baignoires où les victimes restaient couchées des nuits entières dans l'attente des souillures, remontant dans des étages exigus des camions de routards démantibulés qu'ils utilisaient comme chambres de torture. Musil rentra de son séminaire de l'automne 1983 en s'arrachant les poumons. Une toux sèche l'épuisait progressivement. Mais, entre deux quintes, il se délectait en évoquant ses dernières frasques dans les saunas de San Francisco. Je lui dis ce jour-là,
À cause du sida, il ne doit plus y avoir un chat dans ces endroits. Détrompe-toi, répondit-il. Il n'y a au contraire jamais eu autant de monde dans les saunas. Et c'est devenu extraordinaire. Cette menace qui flotte a créé de nouvelles complicités, de nouvelles tendresses, de nouvelles solidarités. Avant, on n'échangeait jamais une parole. Maintenant, on se parle. Chacun sait très précisément pourquoi il est là.
Je trouve que c'est ce qui a été écrit de plus beau sur Foucault. Je trouve que c'est vraiment Foucault tel qu'il était, qu'on voit apparaître plus que dans n'importe quel autre texte sur Foucault. Quant à sa vie sexuelle, je ne comprends pas les gens qui lui font un procès. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit de Foucault? Qu'il était homosexuel, c'était de notoriété, tout le monde le savait. Je ne sais pas, Michel Foucault ne l'a jamais caché, et tout le monde le savait. Il dit des trucs sur les pratiques SM, tout le monde le savait aussi. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, il ne le cachait pas. C'était de notoriété publique dans ce milieu-là, et je ne vois pas ce qu'il y a d'honteux. C'est ça, c'est comme si, dans la mesure où on lui reproche de l'avoir dit, comme si... Je dis dans le livre, on croyait que monsieur et madame Foucault dînent déjeuner tous les jeudis avec leurs enfants et petits-enfants. Non, personne ne croyait ça. On savait très bien ce qu'il en était. C'est des thèmes que Foucault avait abordés dans son travail. Je ne sais pas, il n'y a rien de... Je trouve ça grotesque. Je trouve toujours dans ces idées, c'est comme si les gens voulaient se prévaloir d'une proximité ou affective ou intellectuelle avec Foucault en faisant des reproches à Hervé. Je trouve que c'est un peu fort. Le travail d'Hervé a été assez clair et linéaire tout au long de sa vie, de parler des gens proches de lui. Et je soupçonne que Michel Foucault, qui n'était pas plus bête qu'un autre, a pu se douter aussi que Hervé l'évoquerait.
Pourquoi Foucault est-il aussi important pour Guibert que pour Mathieu Lindon ?
Il a été important pour nous parce que il nous a fait nous rencontrer et qu'il a été heureux qu'on devienne proche comme ça. Et que oui, c'est quelqu'un qui a été, pour moi, qui a été d'une importance considérable. Je pense que s'il était mort plus tard, j'aurais eu une vie différente même. Enfin, je me rappelle ma surprise la première fois où il m'a dit, mais en fait, la relation qu'Hervé, vous avez, c'est une relation amoureuse. Et comme pour moi, une relation amoureuse, c'était passer par d'autres choses, je n'avais pas pensé comme ça. Et quand je l'ai eu, quand il l'a dit, j'en ai été convaincu. De la même manière, sans doute que la relation qu'Hervé et Michel Foucault avaient, ou la relation que moi, et, enfin que Michel Foucault et moi en avait, était amoureuse aussi, oui. Et comme, voilà, je ne sais pas, donc ça a été, et comme c'était lui, et c'était quelque chose d'autant plus exceptionnel.
Écrire, c'est donc se montrer, se faire voir, faire apparaître son propre visage auprès de l'autre. Michel Foucault, l'écriture de soi.
Quand Hervé a connu Michel Foucault, il était extraordinairement joyeux. Et Hervé a été magnifique dans toute la période de la maladie de Michel Foucault. Et je pense qu'il a dû songer énormément à Michel Foucault quand lui a été malade. Et je pense que Michel Foucault a dû lui manquer beaucoup.
Vous pensez en même temps que Michel Foucault lui a appris la mort en étant malade du sida avant lui, qu'il a appris quelque chose de cette époque-là,
oui,
et de Michel Foucault en particulier?
Oui et non, parce qu'il a toujours été hanté par la mort, Hervé. Regardez ses livres. Il a toujours photographié la mort. Hein,
et... Il en parlait?
Oui, il en parlait, mais d'une façon très sobre. Il disait « je mourrai jeune », et on disait tout ce qu'on dit dans ces moments. Mais non, mais oui, il n'en parlait pas beaucoup, parce qu'en même temps, il avait une telle intensité dans son désir de vivre. Il suremployait la vie et lui-même. Et ça, c'était très beau. Et donc, je pense que quand il a su qu'il allait mourir, quand il me l'a appris, il m'a dit « Vous allez être fiers de moi. » Parce que tout ce que je ferai accompagnera ce moment-là et je m'efforcerai de faire encore plus de choses que quand je savais que j'étais vivant.
L'obligation que je me fais de rendre compte de tout ce que je vois, exposition, film, pièce de théâtre, et de tout ce que je vis qui m'importe, devient peut-être une sorte de folie.
C'est une maladie qui était une maladie longue relativement, et il a pu donc envisager et sa propre vieillesse, puisque même quand il avait 36 ans, donc il est mort jeune, même dans ses propos, il se considérait comme un vieillard. Il s'est vu vieillir très très vite, et donc il a eu le temps de se voir vieillir physiquement et d'envisager sa mort sous toutes ses coutures. D'autant plus que la mort de Foucault lui a servi d'exemple. C'est-à-dire, il a dit « je veux pas du tout que ça se passe comme ça s'est passé pour Michel », c'est-à-dire l'emprise de la famille aux dépens de son ami Daniel Defer, par exemple. Donc il a tout fait pour que ça soit ce qu'il aime, c'est-à-dire Thierry et moi principalement, pour qu'on hérite justement de son œuvre, de ses biens, de tout, quoi, et non pas sa famille.
Est-ce que son écriture change, puisque vous avez lu ensuite « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose change dans sa façon de parler de lui et de se décrire et de décrire les autres ?
J'ai pas l'impression que son style ait changé. Simplement, ce qu'il a dit au départ, puisqu'il écrivait surtout des nouvelles, et qu'il avait un peu l'angoisse de se dire « est-ce que je suis capable d'écrire un roman ?» Tout d'un coup, oui, il a écrit des textes beaucoup plus longs. Donc il a changé, il a fait une construction, mais déjà depuis Des aveugles, il avait fait des constructions plus longues. Mais ça se concrétisait, il écrivait vraiment de plus en plus régulièrement, de plus en plus souvent, de plus en plus long.
Quand on lit À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et puis Le protocole, et L'homme au chapeau rouge, etc., les textes qui vont suivre, on a le sentiment qu'écrire et décrire comme il le fait, tiens, il pleut. On a le sentiment qu'écrire le prolonge, qu'écrire lui donne une force et que c'est un pied de nez à la mort.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et je me souviens d'une caricature, d'un papier avec une caricature d'Hervé qui passait, je crois, dans les backrooms et qu'on m'avait prêté comme ça, où on le voit à l'état de squelette, presque sur le point de mourir, et lui disait en gros, je schématise, hein, « Non, attendez, j'ai encore un dernier livre à écrire. » Mais je crois que c'est ça, c'est ce qui l'a maintenu en vie. Je veux dire, après À l'ami, logiquement, il aurait dû mourir s'il n'y avait pas eu ce nouveau médicament. Il en parle dans Le protocole. Moi, je l'ai vraiment vu s'éteindre à petit feu, hein, et je me suis dit, bon, maintenant, c'est fini. Donc, le fait qu'il ait eu ce nouveau médicament, c'est aussi grâce à ça, quand même. Et cette envie de continuer d'écrire a fait, effectivement, que jusqu'au bout, il a eu cette force.
Son premier livre est le plus noir possible. Et ses derniers livres, à part peut-être si tout est que le virus, évidemment, mais je pense à l'ami, je pense au protocole surtout, sont des livres de paix et plutôt de soleil. Ce ne sont pas des livres sombres. Enfin, je ne les ai jamais lus, moi, comme des livres sombres. Ce sont plutôt des. Ce ne sont pas des manuels de savoir-vivre, enfin presque. Il y a un côté comme ça, extrêmement positif. Ce ne sont pas des livres. Qui rendent malheureux. Ce sont plutôt des livres qui vous font... qui changent votre vision du monde. Voilà. C'est pour ça, d'abord, que je suis tellement attaché à son travail. Et je pense que c'est aussi pour ça que le succès considérable qui a été le sien à l'époque a été un succès très sain. Il n'a pas eu du succès uniquement parce qu'il déclarait qu'il était malade. Sinon, le livre suivant, donc Le protocole, n'aurait pas été un tel succès. Et les gens... Les gens ont été, comme toujours, assez horribles dans cette histoire Hervé. Moi, je me souviens d'écrivains rivaux, puisqu'il y a des écrivains qui vivent constamment en rivalité avec les autres. Et à l'époque, certains me disaient, m'assuraient qu'Hervé n'était pas malade, que c'était juste une publicité. J'ai entendu ça, de gens extrêmement sérieux me dire qu'il n'est pas malade, il veut juste la gloire.
Qui dit ça, par exemple ?
Ce qui est curieux, c'est Cyril Collard m'a dit ça, par exemple. Cyril Collard m'a dit ça en me disant « moi je suis malade, lui il l'est pas ».
Pourquoi il dit ça ?
Une vraie jalousie, une vraie rivalité, c'était avant Les Nuits Fauves, Cyril n'avait pas de succès non plus, il voulait le succès, il l'a eu, malheureusement trop tard.
Je ne veux plus savoir où j'en suis, je ne le demande plus aux médecins, ni avoir les résultats des analyses qu'on a pris l'habitude avec le sida, et je ne sais pas si c'est vraiment mieux ou finalement moins bien de livrer aux malades. Je suis dans une zone de menace où je voudrais plutôt me donner l'illusion de la survie et de la vie éternelle. Oui, il me faut bien l'avouer, et je crois que c'est le sort commun de tous les grands malades, même si c'est pitoyable et ridicule. Après avoir tant rêvé à la mort, Dorénavant, j'ai horriblement envie de vivre.
Il faut parler de ce succès, non pas inattendu, mais en tout cas de ce succès qu'il obtient avec un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Il obtient du succès aussi parce qu'il montre son visage. C'est la première fois qu'il est médiatisé à ce point. On le voit chez Pivot, on le verra un peu plus tard chez Patrick Poivre d'Arvor dans son émission littéraire. Le fait de voir le beau Guibert sert aussi Guibert.
Bien sûr, il est, je veux dire, passé à la télévision reste malgré tout un atout. Hein. Il a d'abord un charme quand même qui passe beaucoup. Hein. Il a beaucoup plu, je crois, et à la fois sa beauté, sa jeunesse, cette espèce de mort suspendue au-dessus de sa tête, et puis sa timidité. On séduit, je crois, les auditeurs de Pivot. Hein. Il y a eu une compassion. Je pense qu'ils ont acheté beaucoup le livre par compassion. Il était déjà passé un petit peu avant chez Pivot, mais il était passé un peu inaperçu. Mais là, il avait effectivement, il a accaparé l'image, hein, ça c'est sûr.
C'est vrai qu'il a reçu énormément de courriers après à l'ami.
Énormément, énormément, oui. Énormément, et pour le protocole aussi.
Et qui lui a écrit?
Beaucoup de femmes, de jeunes filles. Des jeunes garçons, bien sûr aussi, mais un public essentiellement féminin. Avec effectivement cette grande compassion vis-à-vis de lui. Et puis aussi, votre histoire me rappelle mon histoire. Voilà.
Vous, par exemple, vous êtes écrivain. Est-ce que ces livres, à l'ami et le protocole compassionnel, ont changé quelque chose dans votre écriture?
Oui, complètement. Enfin, j'en suis sûr. Je ne sais pas quoi, mais je sais que je ne pourrais plus écrire de la même façon depuis que j'ai lu ces deux livres-là.
Expliquez-moi pourquoi.
Ah là là, ça c'est difficile.
Jean-Marc Roberts.
Je crois que c'est peut-être l'envie qu'il avait aussi de... Bon, j'ai jamais été dans la lourdeur, j'ai toujours aimé la légèreté. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'effectivement, les choses les plus tragiques, les plus graves, il arrivait à les... Dans ces deux livres-là, en tout cas sur ces sujets-là, à les rendre incroyablement presque positives, quoi. Et donc, il parle de malheur, et on ne sait plus s'il ne parle pas de... Enfin, si on se demande s'il parle de malheur ou de bonheur. Et donc, j'ai essayé, les livres suivants, tous ceux que j'ai pu écrire après, sont des livres... c'est impossible de savoir ce qu'il a changé. C'est impossible. Mais je sais que les livres d'avant, je ne les relis pas.
Vous avez parlé autrement de vous après avoir lu Guibert?
J'ai aussi parlé autrement de moi. J'ai arrêté de faire, mamie Jaurée, pour prendre une expression qui l'aurait fait rire lui. Effectivement, j'ai jamais aimé, par exemple, parler de mon travail. D'auteur, d'éditeur, j'adore. D'auteur, j'aime pas. Mais quand j'y vais maintenant, j'y vais, quoi. Ou alors j'y vais pas, mais je crois que ça m'a aidé à vivre aussi. Ça m'a aidé à écrire le livre d'Hervé, mais aussi à vivre un peu différemment, je pense.
À vous donner d'audace?
Oui, aller chercher des choses que je ne voulais pas chercher. Je pense que quelqu'un comme Christine Angot provoque ça chez des jeunes auteurs aujourd'hui.
Qu'est-ce qui manque, selon vous, lui certainement, mais qu'est-ce qui manque le plus d'Hervé Guibert? Est-ce que c'est ce culot que vous avez abordé?
Oui, parce que c'était un culot très particulier. C'était un culot très tranquille, très innocent, d'une certaine façon. Et très...
Patrice Chéreau.
C'était un culot qui était vraiment propre à l'écriture, à ce qu'il cherchait dans la photo, par exemple. Le culot qu'il avait de photographier ses grands-tantes et les textes qui allaient avec. C'est un culot d'une nature très particulière. Très particulière, qu'on ne retrouve pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont du culot, mais qui n'ont pas autant de rigueur ou autant d'entêtement dans leur monde, je trouve. Voilà, c'est un culot qui me sidérait, d'ailleurs, la plupart du temps. J'ai mis mes doux. Mais c'était tellement pas la personne qu'on avait sous les yeux.
Un ange pasolinien.
Très étrange, oui, physiquement, mais très beau.
Je voudrais vous faire part d'une phrase que j'ai retrouvée dans son journal, qui est magnifique,
oui.
Le mausolée des amants. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il pose une question.
L'artiste ne doit-il pas avoir laissé un pied dans son enfance et l'autre dans la tombe?
Oui. Oui, il arrive que les gens soient... Oui, oui, je vois bien ce qu'il veut dire. On est écartelé entre les deux, en plus. L'enfance est une composante énorme du travail qu'on fait. Enfin, je dis on, surtout les écrivains, mais même un réalisateur, même un metteur en scène comme moi, oui. L'enfance est présente. Et c'est dans l'enfance qu'on puise tout ce qu'on sait du métier, tout ce qu'on a appris. Ça a à voir avec les souvenirs d'enfance, ça a à voir avec ce que l'enfance a imprimé en soi.
Et la tombe?
Ah ben la tombe, oui, à un moment donné, comme c'est l'horizon final et incontournable. Oui, oui. Je vois bien ce qu'il veut dire, en tout cas.
Vous aviez la possibilité, on peut imaginer des choses inimaginables, de rencontrer Guibert aujourd'hui. Aïe. Est-ce que vous savez ce que vous auriez envie de lui demander, de lui dire? Quel type de relation vous aimeriez avec lui?
A priori, je ne chercherai pas à le rencontrer. Je me souviens, je réfléchissais à ça, je crois que je lui ai écrit une lettre une fois, mais sans mettre ni mon adresse ni rien du tout, c'était juste pour lui dire « Monsieur, vos livres sont beaux et ils m'aident. Merci beaucoup d'écrire. » C'est tout. Ça me suffisait. Si je devais le rencontrer aujourd'hui, je sais pas, parce que quand on parle aux gens qui l'ont connu, ils disent qu'il était gentil, mais il était extrêmement exigeant et très dur et implacable. Donc, si j'avais l'occasion de le rencontrer, je lui dirais « Je veux voir vos photos et est-ce que ça vous intéresserait qu'on crée un prix photo Hervé Guibert, par exemple ?» Voilà, puisque vous avez un style de photo, vous êtes un photo. On dit que vous êtes écrivain, mais moi, vous êtes photographe. Donc, est-ce qu'on peut créer un prix de photo Hervé Guibert avec... On réunit tous vos amis, et puis chaque année, il donne un prix de photo, comme ça, à quelqu'un qu'ils aiment. Et puis, je sais pas, ça l'amuserait peut-être, ou il m'enverrait balader, mais ça serait ça, peut-être.
Je garde toujours chez moi une bouteille de champagne et un rouleau de pellicule Tri X. Au cas où je rencontrerai un joli garçon dans la rue, et qu'il ait la gentillesse de bien vouloir me suivre. Alors, j'ouvrirai la bouteille de champagne pour le faire boire, et j'armerai l'appareil pour le photographier. Mais je ne rencontre jamais de jolis garçons assez gentils pour vouloir me suivre. Alors, certains soirs de morosité, je sirote seul le champagne, et pour peu qu'un rayon du soleil finissant vienne m'éblouir dans le miroir, la pellicule disponible est aussi bienveillante à mon égard que le vin pétillant, enclin à la même allégresse ou à la même tristesse.
Claire de Varieux, son amie et votre amie, dit... Il était dans le domaine de la transgression, il avait le sentiment qu'il avait le droit d'y être.
Oui, je pense que oui.
C'était quoi sa façon de transgresser? Comment il transgressait? Qu'est-ce qu'il transgressait?
C'est-à-dire, je pense qu'il parlait de la sexualité comme on n'en parlait pas à cette époque. Hein,
c'est important de se remettre dans l'époque, effectivement.
Oui, il faut quand même vraiment voir l'époque, c'est-à-dire ce serait très différent maintenant. Évidemment.
Yvonne Babi.
Mais je pense qu'il... Comment dire? C'est un poète. Donc, qu'est-ce que c'est un poète? C'est un artiste qui a des fulgurances. Et donc, ces fulgurances peuvent tomber aussi dans tous les domaines, en principe, interdits. Donc, lui, il levait les tabous. Donc, il avait une fantasmagorie très particulière. La sexualité jouait un rôle très important dans sa vie. Et donc, il était normal pour lui. Enfin, il était normal. Je pense que, en tout cas, il ne le faisait dans... Comment dire? Il le faisait parce qu'il poursuivait une aventure acharnée sur lui-même. Et il pensait qu'il explorait tout ce qu'il est possible d'explorer dans le domaine de la condition humaine. Donc, dans la condition humaine, il y a ça aussi. Hein. Quand il parle de toute la sexualité noire, dans tout ce qui est l'amour, la mort, à ce moment-là, il est à l'intérieur, mais il n'a rien à surmonter. Tandis que quand il s'agit de sa propre mort, il y a, comment dire, il a la force et il a aussi la chance du courage. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas facilement publier certains textes d'Hervé. Enfin, ses limites, il a, comment dire, il a des relations amoureuses avec de très jeunes adolescents. Qu'aujourd'hui, on classerait dans le domaine de la pédophilie. Vous savez, aujourd'hui, je me demande même ce que ferait Gallimard en face d'un texte comme de Genet, d'un livre comme Le Captif Amoureux, qui est à la fois l'éloge du terrorisme, le bouleversement devant les combattants palestiniens et une sorte de gauchisme qu'on ne peut même plus entendre aujourd'hui.
C'est me fait un vrai plaisir quand elle rit de bon cœur au récit de ma dégradation physique.
Comment est-ce qu'on vit avec le fantôme de Guibert quand on est Christine Guibert ?
Bien. Bien, parce que il a tout fait pour que je vive bien aussi. Donc, toute la force, oui, qui m'a laissée, en particulier, mais bon, plein d'autres choses. Non, une présence. Je veux dire, c'est un fantôme présent et positif. Voilà.
C'est quelqu'un qui vous a fait plus de bien que de mal, Hervé Guibert ?
Ah bah oui, c'est clair. C'est clair, oui.
Vous avez dit tout à l'heure, il m'a permis de grandir. C'est beau, ça ?
Oui, mais on a grandi ensemble, je pourrais dire, en même temps. Je pense que on grandit ensemble, on fait quelque chose ensemble. Et oui, on continue à vivre ensemble, même si y en a un qui n'est plus là, quoi.
Ma folie a été de vous rencontrer, nous a dit à T et à moi, C, hier soir. Je ne le crois pas. T a pleuré dans mes bras sur mon lit. C'était pire que la suffocation que j'ai eue à l'endroit du cœur après qu'on m'a troué un poumon avec une seringue.
Cette photo-là, elle est prémonitoire, les amis. C'était simplement un garçon qui était un peu malade et son ami qui était allé le voir à l'hôpital. C'était bien avant le sida, 82. C'est quand même prémonitoire. Photo de...
Et on a aussi l'impression d'une mise en scène, là.
Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas une mise en scène. C'est le fils d'Yvonne Babi.
Ah oui.
Et là, c'est amusant, autoportrait, il appelle ça. Donc, c'est un tableau tout craquelé, où il y a un homme chauve avec des yeux bleus. Il appelle autoportrait parce qu'il était persuadé, alors qu'il avait une chevelure magnifique, des boucles, des superbes boucles blondes, et il semblait qu'il les perdait un petit peu. Il pensait qu'il serait chauve. Et donc, il se voyait comme ça. Et ce qui m'a frappé quand je l'ai vu dans son cercueil, c'est que il avait l'air, son visage avait été celui d'un homme de plus de 60 ans. Il avait vieilli prématurément dans les derniers mois. Mais il avait cheveux blonds. Il avait toujours des boucles blondes. Ce qui était bizarre, parce qu'il avait le visage d'un homme qui a les cheveux blancs d'habitude, ou gris. Et lui avait ses boucles blondes, qu'il n'avait jamais perdu. Il n'a jamais été chauve. Et cette photo de la sacristie qui est magnifique parce que c'est une fenêtre, la fenêtre de la sacristie à l'île d'Elbe. Et il y a un bouquet et puis il y a un rideau, comment ça s'appelle ?
Un tulle.
Oui, un rideau de tulle, que le vent projette, agite et colle au bouquet. Et cette photo, elle a un charme extraordinaire, elle est complètement prenante. Et là aussi, il m'a semblé que c'était une photo très érotique. Et que ce bouquet, c'était comme un sexe sous une djellaba. Non ?
Oui, tout à fait.
Mais c'est beau, c'est vraiment poétique. C'est vraiment poétique, parce qu'effectivement, moi, j'ai souvent pensé que ce qu'il y avait de plus beau au monde... Vous couperez, hein ?
Ne vous inquiétez pas.
C'était... une très belle fleur ou une très belle bite. Et je trouve qu'il devait penser à la même chose. Il y a un rapport. Parce que les fleurs, c'est ça, c'est vivant. Ça a ce côté éphémère. Éphémère d'un sexe. C'est éphémère un sexe aussi. On ne sait jamais où ça va. Et les fleurs, c'est pareil. C'est très beau. Et puis ça fane, ça disparaît.
Par la nuit, Hervé Guibert, un romancier barbare et délicat, par Vincent Josse. Avec Philippe Castetbon, Yvonne Babi, Christine Guibert, Patrice Chéreau, Agathe Gaillard, Jean-Marc Roberts, Mathieu Lindon. Texte lu par Guillaume Depardieu, extrait du film de Hervé Guibert, La pudeur ou l'impudeur. Musique originale de Dominique A. Prise de son, Marcel Lebras. Mixage, Yves Baudry. Réalisation, Ghislaine David. Les garçons.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 octobre 2004.